résumons très brièvement ce qui a occupé nos cœurs ce matin. À partir du chapitre 13, le Seigneur Jésus, ayant achevé son service d'amour sur la terre, prend sa position de sauveur céleste. Nous sommes introduits dans cette scène touchante qui s'est passée la nuit où le Seigneur a été livré, à la fin de la soirée, où il était dans la chambre haute avec ses disciples, pour manger avec eux cette Pâque qu'il avait fort désiré de célébrer avant de souffrir. Le Seigneur s'interrompt dans ce repas pascal, ce repas de l'agneau pascal. Il s'interrompt, il se lève de la table, et maintenant il se met à laver les pieds de ses disciples. Un service d'amour, expression d'affection, et aussi l'expression de ce que le Seigneur fait aujourd'hui, maintenant, dans la gloire pour nous, lui qui est le souverain sacrificateur et l'avocat. Il lave les pieds des chrétiens, de ceux qui sont à lui. Il ne s'agit pas dans cette scène, essentiellement, du salut de l'âme. Il s'agit de la purification, de la sanctification des croyants engagés dans un chemin difficile sur la terre, environné de faiblesse et de misère et de souillure. Nous avions rappelé que ce service d'amour que le Seigneur remplit à l'égard des disciples, effectivement, ce soir-là, spirituellement maintenant pour nous dans la gloire, était préfiguré dans ce qu'était pour les sacrificateurs, pour la famille sacerdotale, la cuve d'airain qui se trouvait à l'entrée du tabernacle, entre l'autel d'airain des holocaustes et l'entrée du tabernacle lui-même. Les sacrificateurs devaient passer par là pour se purifier, pour se laver, être rendus propres à accomplir le service dans la maison, dans le tabernacle. Le passage de nombre 19 aussi, l'exemple de la génisse rousse, nous montre ce qu'est l'application pratique de la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour obtenir la purification de nos cœurs dans notre marche dans le désert. Alors, nous n'avions pas eu le temps, et je vais en dire un mot maintenant, d'établir la différence entre ce fait que le Seigneur a lavé les pieds des disciples seulement, Pierre compris, et puis ce qu'aurait voulu Pierre pour lui, et que le Seigneur n'a pas fait, c'est-à-dire de lui laver autre chose que les pieds, le corps tout entier. Alors le Seigneur et notre cher traducteur nous aident à mieux comprendre la pensée de l'Esprit. Au verset 10 de ce chapitre 13, « Celui qui a le corps, tout le corps lavé, n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, et vous, vous êtes net, mais non pas tous. » Et le mot employé est d'un côté une partie du corps seulement, les pieds ou les mains, ou le corps tout entier. Alors on trouve dans cette préfiguration, dans la loi de Moïse, et je lis le passage, c'est au moment de la consécration des sacrificateurs, en Lévitique 8. C'est une scène remarquable, d'ailleurs, qui se termine après par une bénédiction et le feu du ciel qui descend en bénédiction pour consumer l'Holocauste, le sacrifice. On y trouve Aaron et ses fils. Aaron est un type de Christ et les fils, un type de l'Église. Au verset 6 de Lévitique 8, Aaron et ses fils sont lavés par Moïse, il les fait approcher, il les lave avec de l'eau. Alors ceci correspond à cet acte de lavage du corps tout entier dont Pierre n'avait plus besoin puisque Dieu lui avait donné déjà la vie en fils, en Christ. Celui qui a le fils a la vie. On notera d'ailleurs qu'il y avait à la fois une aspersion d'eau, un lavage d'eau, mais il y avait aussi une aspersion de sang. Et on avait bien remarqué ce matin que du corps de Christ sur la croix, percé par la lance du soldat romain, était sorti l'eau de la purification et le sang de l'expiation. Tous deux pouvant être opérés, expiation et purification, par la mort de Christ. Avec le Saint-Esprit, c'est un triple témoignage que la vie est en Fils, dans le Fils, en Christ, et que celui qui a le Fils a la vie. Ces trois sont même d'accord pour le même témoignage. Alors le sang est présenté en même temps que l'eau dans la purification des sacrificateurs pour qu'ils soient consacrés à leur service. Et on la trouve en particulier au verset 24. D'abord pour Aaron lui-même au verset 23. Au verset 24, on fit approcher les fils d'Aaron. Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, pouce de leur main droite, gros orteil de leur pied droit. Le sang non seulement opère l'expiation, l'eau opère la purification, mais le sang est placé là, sur l'oreille, pour nous rendre capables d'écouter, sur le pouce, c'est les mains, pour nous rendre capables d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu place à l'avance pour nous, et aussi sur le gros orteil du pied droit pour rendre notre marche compatible avec la sainteté du Dieu dont nous nous réclamons, auquel nous réclamons appartenir. Donc il y a une consécration à la fois par l'eau et par le sang. Maintenant, dans le lavage des pieds que le Seigneur accomplit pour ses disciples, en figure le service qu'il fait pour nous dans la gloire maintenant, il s'agit de sanctification. Reprend ses vêtements, chose merveilleuse. Il reprend sa place parmi ses disciples, et maintenant il va donner à cet acte qu'il vient d'accomplir un sens d'exemple. Ce que vous avez vu que je vous ai fait, et vous m'avez appelé maître et seigneur, celui qui a l'autorité et celui qui enseigne, bien maintenant je vous invite à faire de même les uns pour les autres. Et nos frères pourront compléter, dire d'une manière pratique comment, dans les soins d'amour, que les croyants, que les chrétiens, frères et sœurs ensemble, se doivent de se rendre les uns aux autres. Comment ce service d'amour peut s'accomplir pour le bien de l'ensemble, la gloire et la joie de Christ. Les deux choses sont vraies. Ensuite, le Seigneur est troublé en esprit, verset 21. Quelle chose ! Il avait été troublé dans son âme en pensant à la croix au chapitre 12. Il est troublé en esprit. Les sentiments de son cœur ne sont pas cités dans les évangiles, à ma connaissance. On ne les trouve que dans les psaumes qui parlent des souffrances de Christ. Il est troublé en esprit, et maintenant il savait, son omniscience a bien été soulignée ce matin, que quelqu'un, l'un des 12, est un diable et allait le vendre. La question est immédiatement prise extrêmement à cœur par les disciples. Ils se demandent, est-ce moi, est-ce possible? Oui, toutes choses sont possibles en fait. Il n'y a pas de profondeur dans la misère humaine, et pourtant, vendre son maître, j'ai souvent pensé 30 pièces d'argent. C'était le dixième du prix que Marie avait payé pour acquérir le parfum. Quelle honte! C'était l'un des 12. Un de ceux-là qui avait probablement accompli des miracles. Si, c'est bien dit, il était revenu auprès du Seigneur. L'endurcissement de son cœur qui aimait l'argent. On a dit que c'était une convoitise qui n'est pas jugée. Je crois que ça n'est pas vrai. Il n'avait pas la capacité de juger ses convoitises puisqu'il n'avait pas la vie. Il avait certainement la responsabilité de ne pas avoir fermé son cœur aux appels de la grâce. Alors Jean pose la question de la part de Pierre parce que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui sont dans sa communion. Chercher la communion du Seigneur Jésus, ce n'est pas pour percer ses secrets, c'est pour être près de son cœur et pour le connaître lui. Et dans cette position-là, alors le Seigneur révèle sa pensée à celui qui est le plus proche de son cœur. Ensuite Judas sort dans la nuit. En offrant est exprimé le désir que nous nous appesantissions peut-être pas trop tôt sur les détails de la fin de ce chapitre pour avoir le temps de dire un mot de la fin du chapitre. À partir du verset 31, notre frère Pierre, ce matin, l'a bien expliqué, c'est un autre sujet qui est présenté, c'est la gloire de Christ, fils de l'homme. Ce n'est pas la gloire du royaume, la gloire du royaume millénaire, comme dans le chapitre 12, mais c'est maintenant, incontinent, instantanément, immédiatement à la croix, que la gloire de Christ est manifestée comme fils de l'homme et que Dieu lui-même est glorifié dans son fils. Et alors, incontinent, sans attendre, le royaume, la gloire à venir, Dieu donne la gloire à son fils au moment même de la plus profonde humiliation. Alors ensuite, au verset 33, le Seigneur reprend en s'adressant à ses enfants, disciples qui sont ses enfants, l'objet de son affection, et va leur donner un commandement complètement nouveau, le commandement de l'amour. Cet amour, il est dans la vérité, il est dans la lumière, puisque la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la mesure de ce commandement est complètement nouvelle. Autrefois, la loi était la règle absolue du bien et du mal dans l'homme. Bon, l'homme ne l'a pas réglée, ne s'est pas soumis à la loi, il ne pouvait pas. Et le commandement de Dieu restait saint. Il n'a pas été abrogé. Et la somme de la loi, c'était l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et la mesure de l'amour pour le prochain, c'est l'amour pour soi-même. Je m'aime naturellement, donc je dois aimer mon prochain comme moi-même. J'aime Dieu, j'aime mon frère. Maintenant, la nouvelle mesure de l'amour est complètement différente. Elle est sans limite, elle est sans mesure. Puisque nous savons que Dieu nous a aimés, comme il a aimé le Fils, Christ nous aime, et la mesure de l'amour infini dont Christ aime chacun de nous, aime son assemblée, il s'est livré lui-même pour elle, il s'est livré lui-même pour moi, Galates 2 et Éphésiens 5, cette mesure de l'amour de Christ pour nous et pour l'assemblée, c'est la mesure dont maintenant, en retour, nous avons à nous aimer les uns les autres, ce qui donne à l'amour chrétien, à l'amour selon Dieu, une dimension que la loi ne pouvait jamais donner. De sorte que la dette de l'amour que nous avons à l'égard de chacun de nous, à l'égard de nos frères, celui pour lequel Christ est mort, elle ne peut pas s'éteindre. Ce qui explique en particulier que la mesure du pardon est sans limite, 70 fois, 7 fois, et toutes sortes d'autres conséquences qui sont d'une importance majeure et primordiale dans la vie des saints, des familles et des assemblées.
Devez vous laver les pieds comme je vous ai fait moi, comme moi. Le Seigneur nous donne une obligation, vous devez. Il nous donne un exemple, comme moi. Et dans ce paragraphe, il y a peut-être deux côtés qui sont présentés. Ces deux côtés sont introduits par en vérité, je vous dis. Alors d'un côté, le premier en vérité, c'est par rapport à celui qui est envoyé. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui est envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Le Seigneur peut nous envoyer. Et s'il nous envoie, ce n'est pas parce qu'on est grand, ce n'est pas parce qu'on est important, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres ou plus spirituel, c'est parce qu'on est un esclave, quelqu'un qui est envoyé, et quelqu'un qui est petit. Alors le premier point, le fait d'être envoyé pour accomplir ce service, et qui est introduit par en vérité. Et le deuxième point, qu'on oublie souvent, qui est au verset 20, ce qui est aussi introduit par en vérité, c'est le fait de recevoir quelqu'un. Quand on pense à ce passage de laver les pieds, on parle souvent et on pense souvent au fait d'aller vers son frère. Mais le passage nous montre qu'il faut aussi recevoir celui qui vient. Il y a ces deux côtés. Aujourd'hui, j'ai peut-être besoin, ou le Seigneur peut-être peut m'envoyer vers mon frère ou ma sœur pour le rapprocher du Seigneur, si tant est que ce soit possible, pour lui parler du Seigneur, pour rafraîchir ses affections. Tout à l'heure, c'est lui qui va être envoyé vers moi. Et nous avons besoin à la fois de toute la grâce de Dieu pour aller comme pour recevoir. Et c'est un peu l'enseignement qu'on a dans ces deux paragraphes. En vérité, comment vas-tu là-bas? Comment vas-tu être envoyé? Et comment vas-tu recevoir celui qui est envoyé?
C'est maintenant que je pense que les choses sont difficiles. À mettre en pratique. J'aimerais bien qu'on profite de cette étude pour être très pratique. Lorsqu'on a considéré le Seigneur dans ce service, nous sommes tout à fait convaincus et nous admirons ce tableau de l'abaissement du Seigneur. Le Seigneur s'abaisse avec condescendance, avec miséricorde, et il prend cette forme d'esclave. Il le dit ailleurs, qui est-ce qui est le plus grand? Celui qui est à table, celui qui sert. N'est-ce pas celui qui sert? Et le plus grand, c'est celui qui est à table. Bien. Alors là, nous n'avons pas eu de difficulté à voir ce service parfait manifesté par le Seigneur. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on voit la chose d'une façon pratique. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller vers un frère pour lui laver les pieds, ou de recevoir un frère pour qu'il vous lave les pieds? Combien de fois ça peut-être nous est arrivé de voir un frère où il serait utile d'aller vers lui? Mais, je parle pour moi-même, mais souvent nous avons été retenus. On n'a pas fait ce travail. Parce que, nous pouvons nous abaisser? S'abaisser vers un frère, ça signifie qu'on était plus haut que lui. Alors, le Seigneur, oui, mais nous, s'abaisser, c'est déjà quelque chose qui pourrait être ressenti par notre frère comme un frère qui se met à notre portée et qui a une certaine conscience de sa valeur, puisqu'il s'abaisse. Et puis, de quel droit ce frère sait que j'ai les pieds sales? C'est très délicat. On va laver les pieds à un frère. Donc, d'après le modèle du Seigneur, déjà, on s'abaisse. Et puis, on considère que notre frère a les pieds sales. Et est-ce qu'on va être reçu? Et c'est dans cette appréhension que très souvent, nous ne faisons pas ce travail parce que nous avons peur de ne pas être reçus. Et inversement, si nous nous mettons dans la peau de celui qui reçoit un frère qui vient lui laver les pieds, mais faudrait-il savoir si j'ai bien les pieds sales? Alors, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas, moi, si vous avez l'expérience pratique, dans un sens comme dans l'autre, de ce travail dont on parle souvent, mais pratiquement. Moi, il me semble que la seule façon ou possibilité de tenter un tel service, c'est quand le frère qui est censé avoir les pieds souillés a besoin de ce service, quand ce frère-là est vraiment brisé, humilié, alors quand ce travail du Seigneur a été fait, après, peut-être, on sera encouragé à lever ce frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me travaille un peu parce que, vraiment, pratiquement, je ne me souviens pas avoir vu ce travail se faire entre nous. C'est très délicat.
Secret de ce passage est le suivant. L'Écriture nous appelle à manger le sacrifice pour le péché dans un lieu saint. Cela veut dire quoi? S'identifier avec le péché de son frère. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas la puissance de la part de Christ pour toucher le cœur et la conscience de notre frère ou de notre sœur. Ça, c'est la première condition, la condition capitale. En tant que sacrificateur, en nombre 18, les sacrificateurs devaient porter l'iniquité du sanctuaire. Dans le deuxième verset de nombre 18. Le Seigneur lui-même, dans son office, a mangé parfaitement le sacrifice pour le péché devant Dieu. Il en a porté toute la peine. Il est de toute évidence que si nous voulons être des instruments dans la main du Seigneur pour accomplir de sa part le service auquel il nous appelle, comme nous le voyons là, la seule place que nous pouvons prendre, c'est celle qu'il a prise dans notre mesure en nous identifiant avec le péché de notre frère. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, c'est le service le plus humiliant de l'amour.
Excusez-moi, mais peut-être que la solution est dans nos relations habituelles. Si nous allons les uns vers les autres que pour nous reprendre, nous avons peut-être loupé, manqué notre vie de tous les jours. Il faut aller les uns vers les autres pour parler du Seigneur, pour être l'un édifié l'un par l'autre. Parfois, le grand problème qu'il peut y avoir, concrètement, c'est que on ne s'intéresse aux gens que dans la mesure où ils ont des problèmes. Mais c'est faux, ça. C'est absolument faux. Nous prenons le problème à l'envers. Nous sommes frères et sœurs pour vivre ensemble, pour apprendre à connaître le Seigneur, et pour grandir ensemble. Non pas l'un devant l'autre, non pas le plus âgé devant le plus jeune, mais ensemble, sous le regard du Seigneur, un seul corps s'édifiant lui-même. Alors, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. C'est évident que si on s'approche de son frère avec l'idée d'être au-dessus, ou si on reçoit en pensant que l'autre, il ferait mieux quand même de se regarder d'abord, bien c'est qu'on est loin du Seigneur et qu'on a besoin de revenir vers lui. Mais ce lavage des pieds, si d'un côté nous parle de la souillure, du péché, certainement, le fait d'être lavé pour être purifié, on a dit aussi que ça nous parle du fait d'avoir nos affections réchauffées pour le Seigneur. Et cela, c'est tous les jours, dans une vie simple. Le problème, c'est que dans notre vie, et je parle par exemple pour l'Assemblée à Bordeaux, c'est que à Bordeaux, entre, par exemple, là où nous habitons et un autre frère, il y a 50 kilomètres. Ce n'est pas très facile pour se rencontrer facilement. Et nous sommes, ceux qui vivent à Paris, il faut prendre, enfin, on est dans un environnement qui n'est pas favorable pour des relations simples. Et souvent, nos relations sont simplement au niveau des réunions, on se dit bonjour, on se dit au revoir, et on ne connaît pas quels sont les besoins des uns et des autres. Alors maintenant, je pose un peu il faut qu'on se pose, vous disiez Raymond tout à l'heure qu'il faut se voir le problème très concrètement, et je crois que c'est juste. Mais la première chose, est-ce que ce n'est pas aussi de vivre simplement l'un avec l'autre pour s'encourager? J'ai lu tel passage aujourd'hui, et on partage, et on parle du Seigneur. Et puis, voilà que tout d'un coup, il y en a un qui se refroidit, on marche côte à côte, l'autre le sent, s'approche, allez, avance. Et on reparle encore du Seigneur, et on parle de la parole, ce qui nous encourage. Et mais, quelles vont être souvent nos conversations? Est-ce que c'est ce qui nous encourage, ou est-ce que c'est ce qui nous décourage? Est-ce que c'est le bien, ou est-ce que ce sont les difficultés? Il ne faut pas se voiler la face devant les difficultés, mais nous ne pourrons faire face aux difficultés que dans la mesure où notre communion avec le Seigneur est réelle, profonde, entretenue, et entretenue les uns par les autres.
On a parlé de simplicité, et il nous faut recevoir ce passage de Jean 13 simplement. C'est vrai que les versets médités ce matin étaient assez longs, et il y avait beaucoup de détails. Et le Seigneur nous a donné tous ces détails pour que on comprenne bien le mécanisme du lavage des pieds par les différentes attitudes du Seigneur et le soin qu'il apporte. Il fallait bien comprendre les choses. Mais maintenant que nous les avons comprises en détail, ce sont des choses qui se vivent simplement. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de faire une visite presque solennelle, je dirais, pour appliquer ces choses-là. Mais nous avons alors le privilège de pouvoir les vivre presque quotidiennement d'une façon beaucoup plus simple. Alors d'abord une remarque, il est dit de se laver les pieds les uns aux autres. Et je ne sais pas si quand on va voir quelqu'un avec la pensée que peut-être il y a ou tel point, le plus souvent si la visite a été bonne, si l'entretien a été bon, mais on s'est fait soi-même laver les pieds. Et dans le contact l'un avec l'autre, on a reçu et l'un et l'autre quelque chose qui nous approche du Seigneur. Ensuite, c'est des choses qui peuvent se passer simplement. Un exemple qui m'a été rapporté, mais qu'on a peut-être déjà entendu, au moins pour certains ici, j'en suis sûr. Dans une assemblée, un frère avait un problème. Il avait de la difficulté. C'était même assez grave, puisque paraît-il, c'était la boisson. Comment aller laver les pieds à un tel frère? Alors un frère de l'assemblée locale est allé. Et il est allé pour prier. Et ils ont pu l'un et l'autre à genoux porter ensemble des exercices locaux dans une vraie communion. Et c'est à la fin de ces moments de prière que celui qui avait pensé devoir faire la visite a simplement ajouté une prière pour dire « Nous te prions aussi, Seigneur, pour ce frère qui, dans l'assemblée locale, a un problème avec la boisson. » C'est tout. Et le frère qui avait la difficulté a abandonné sa faute. Voilà un lavage de pieds qui est fait avec grâce, qui est fait sans souligner les choses et qui est fait en laissant confiance, en faisant confiance au Seigneur pour que l'âme saisie par le fait que le Seigneur lui parle puisse continuer simplement avec le Seigneur. On n'avait pas lavé la tête, on avait parlé au cœur. Un autre exemple encore plus simple et que j'ai vécu souvent, se faire laver les pieds par une sœur. C'est un exemple que l'on trouve dans 1 Timothée au chapitre 5 à propos de la veuve, si elle a logé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints. Comment ça se passe, ça? On est là avec nos préoccupations de chaque jour, sans qu'il y ait une faute particulière, mais simplement nos pensées sont aux choses de la terre. Et voilà que quelqu'un qui se trouve à côté, sans même s'en rendre compte, parce qu'elle parle du Seigneur, parce que ses préoccupations sont aux choses du Seigneur, il y a là comme une flèche de la part de Dieu. et un lavage de pieds qui nous ramène à être occupés du Seigneur. Alors, c'est vrai, il y a des fois des visites solennelles, mais sachons vivre ces choses quotidiennement, simplement, pour nous amener l'un l'autre plus près du Seigneur. Et nous en trouverons un bien extraordinaire et nous serons bien mieux adorés ensemble.
En tout cas, les exemples qu'a cité Élie, ils sont très beaux, mais j'allais encore dire que ce sont des exemples relativement faciles, parce que c'est caractérisé. Un frère sait très bien qu'il est victime de sa tendance à la boisson. Mais il y a des cas pratiques où on n'ose pas, parce qu'on n'a pas l'impression que le frère est conscient de ce qui trouble. Et voilà. Alors, on peut prier toujours, c'est vrai. Mais je pensais, moi, que peut-être, après, quand le Seigneur ait fait déjà un premier travail d'humiliation dans le cœur de ce frère, alors là, c'est le moment de ratifier son amour et d'aller dire, mais maintenant, il n'y a plus de ressentiment, il n'y a plus rien entre nous, c'est le pardon total dès l'instant qu'il a déjà été restauré. C'est une question que je pose.
Il y a un exemple dans la parole, on dira c'est toujours le Seigneur qui le fait, c'est l'exemple des disciples d'Emmaüs. C'était des disciples qui s'en allaient loin, qui étaient sur le chemin, non pas venir, mais qui sortaient. Et c'est le Seigneur qui était à leur rencontre. Il leur a fait des reproches? Non. Il a fait route avec eux, et commençant par là où ils étaient, il leur a ouvert la parole. Et le résultat, on le voit à la fin de Luc 24. Ce sont eux qui sont revenus pour réchauffer le cœur des autres. Et nous aussi, nous avons à apprendre de cela. Dans la première partie de ce que nous avons considéré ce matin, et la parole nous enseigne surtout quant à ce qui concerne l'ordre, nous avons le modèle du Seigneur devant nous. Et il dit, je vous ai donné un exemple. Non, c'est beaucoup plus qu'un exemple. Parce que ce que nous avons ici, c'est quelque chose de vertical, ce que le Seigneur nous a fait. Lui, Seigneur et Maître. Si nous considérons le Seigneur et Maître qui fait ça pour nous, et que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous, aller vers nos frères, ça sera très facile pour nous. Le plus souvent, nous ne jouissons pas de cette affection, de ce privilège que nous avons de nous voir les pieds lavés par le Seigneur lui-même. Alors, on n'aurait pas peur. Le Seigneur savait très bien qu'il serait rejeté par les hommes en venant dans ce monde. Son amour l'a amené vers nous. Et notre amour, en retour, considérant son amour pour nous, doit nous amener à aller vers nos frères. Il dit ici, je vous ai envoyé. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est tout ce qu'il nous faut retenir. Ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Considérons l'exemple du maître. La ressource se trouve là. La ressource se trouve dans ce que nous avons pu considérer ce matin.
Est-ce que, justement, dans ce passage, on doit bien, puisqu'on est là pour écouter la parole, être convaincu que nous vivons tous dans le monde, donc en figure, nous marchons tous dans le monde, donc nous avons tous besoin d'avoir les pieds lavés, puisque nous avons tous de la souillure. C'est l'exemple qui nous est donné. C'est donc pas la caractéristique de quelques-uns qui seraient tombés dans quelques fautes, mais nous avons tous contact avec le monde, donc nous avons tous besoin de cela. Et si on repense à ce qu'on a dit ce matin, et en relation avec ce que cela amène, avoir une part avec le Seigneur. Eh bien, si justement l'un de nous a perdu la joie, a perdu la paix, a perdu cette relation d'amour avec le Seigneur, eh bien, il est dans cette situation où il a besoin d'aide. Et c'est vrai que si on vit des relations normales de frères et sœurs, nous nous connaissons. Et si nous nous connaissons, nous nous rendons compte quand l'un de nous est dans une situation difficile spirituellement, où il est triste, comme justement l'exemple des disciples. Et nous sommes donc, nous devons à ce moment-là, si nous aimons, nous devons apporter à notre frère et à notre sœur ce qui l'empêche d'avoir une pleine paix ou une pleine joie. Ce n'est donc pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal. Est-ce que, en parlant de péché, on ne se trouve pas dans le sujet de la discipline? On a d'autres passages qui nous parlent justement, si ton frère a commis quelques fautes, alors il va vers ton frère, et puis il y avertit-le comme un frère. Est-ce que ce n'est pas un autre sujet? Est-ce que ça en fait partie ou est-ce que ça n'en fait pas partie? C'est une question que je pose. Est-ce que justement la question du lavage des pieds, quelque chose de beaucoup plus dans nos relations normales de frères et sœurs, et que dans certains cas, eh bien, il y a ces questions de discipline, non pas de la discipline de l'assemblée, mais des passages qui nous parlent plus précisément des relations dans le cas d'une faute. Alors, c'est une question.
On a dit que la discipline est la prérogative de l'amour. Et voilà le sens moral dans lequel un service comme le lavage des pieds doit être exercé. Alors il est clair que la discipline est d'ordre paternel, fraternel ou ecclésiastique. Je crois que la discipline fraternelle serait plus en vue dans Matthieu 5 et Matthieu 18, le passage auquel Philippe faisait allusion tout à l'heure. Il y a dans l'Écriture tout ce qui nous est nécessaire pour régler tous les cas de difficultés entre frères. Je n'ai pas le droit de garder quelque chose sur le cœur. Si je sais que mon frère a quelque chose contre moi, je dois aller le voir. Matthieu 5, autrement, il n'y a pas de culte possible. D'un autre côté, l'inverse est vrai aussi, Matthieu 18. Ici, je crois que c'est autre chose. Nous ne sommes pas nécessairement impliqués dans les circonstances de ce frère vers lequel le Seigneur, si nous sommes fidèles et courageux, parce qu'il faut du courage moral, si nous sommes envoyés par le Seigneur pour accomplir ce service à l'égard du frère, je crois que ce serait plus ce caractère de discipline paternelle. La seule prérogative et la seule supériorité, parce que J.N.D. l'emploie dans ce traité de la discipline, c'est la prérogative et la supériorité en grâce. De sorte qu'il faut d'abord que je jouisse de la grâce de Dieu pour moi, que je sois dans un chemin droit, que j'ai la conscience à l'aise devant Dieu et devant les hommes, que je ne ferme pas mon œil par une poutre pour aller retirer le fétu de mon frère pour quelque chose qui me dérange. Voilà l'esprit dans lequel nous pouvons et nous devons envisager de laver les pieds les uns aux autres. Cette supériorité en grâce, elle s'exprime dans, par exemple, Galates 6. Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Porter les charges des uns des autres serait plus ce que nos frères ont dit tout à l'heure. Si c'était l'habitude d'une vie de communion entre les saints, apprenant davantage à mieux se connaître, à mieux partager les peines et les souffrances, il serait moins difficile d'exercer ce service sacerdotal, parce qu'il s'agit bien du service sacerdotal, d'apporter la grâce de Christ à la souillure de l'un ou de l'autre. Alors nous avons besoin les uns des autres. L'Écriture dans Romains 14 distingue les forts et les faibles. Alors il ne nous appartient pas de nous placer dans une des catégories forts ou faibles. On aurait plutôt tendance naturellement à se placer parmi les forts. Rappelons-nous que lorsque nous exerçons la patience de nos frères, en définitive, c'est pour eux que nous sommes les faibles. Donc nous avons ensemble besoin d'être héritiers de la grâce de Christ, de le réaliser. Et dans la mesure où c'est pour apporter Christ qui est finalement la ressource suprême à toutes les difficultés, eh bien ce chemin-là peut être ouvert pour nous, pour effectivement en pratique de laver les pieds de nos frères.
Je vais lire ce verset qui me paraît dans le sujet, c'est dans Hébreux 12, où il est dit, au verset 12, c'est pourquoi redresser les mains lassées, les genoux défaillants, mais en même temps faites droit, faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. C'est peut-être le but qui est à rechercher, et le souci que doit avoir, que nous devons avoir mutuellement, de nous inquiéter si un frère manque de la grâce de Dieu. En fait, il n'en manque pas, mais il manque de la jouissance de cette grâce. Et peut-être c'est là le travail utile.
J'aurais aimé essayer de répondre un peu à ce qu'a dit Christian tout à l'heure. C'est bien certain que quand nous sommes réunis autour du Seigneur pour nous édifier, comme il est dit l'un l'autre, eh bien, si nous sommes dans des dispositions convenables, nous allons recevoir ce que la parole de Dieu nous dit. Je pensais surtout à ce don de prophétie dont parle 1 Corinthiens 14, où nous sommes appelés à désirer avec ardeur. Et souvenons de ce qu'il est dit de ce don, celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation, la consolation. Et puis, bien sûr, on pense à 2 Timothée, où il est dit, au chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfaitement accompli, pour toute bonne œuvre. Et bien clairement, il me semble que si nos cœurs sont bien disposés, si nous sommes prêts à recevoir avec douceur, comme il est dit, la parole de Dieu, qu'elle s'implante, parce qu'elle a le pouvoir de sauver nos âmes, eh bien, oui, ce ministère qui s'exerce dans l'Assemblée a évidemment tout son prix, et parce que d'abord celui qui prophétise parle de la part du Seigneur, pouvant l'espérer toujours, et sans savoir souvent ce qu'il en est exactement de ceux qui sont là. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et il permet que l'exhortation qui est donnée réponde directement aux besoins des cœurs de ceux qui sont présents. Seulement, il me semble que ce que nous avons dans Jean 13 et que nous sommes en train d'examiner ensemble, eh bien, c'est en somme le cas où nous n'avons pas prêté, je dirais, à la parole de Dieu, que ce soit dans l'Assemblée, que ce soit dans le privé, toute l'attention nécessaire. Et hélas, nous avons manqué de vigilance et bien sûr, il y a des souillures et nous avons besoin de ce service mutuel. Et je crois que c'est très important d'insister sur ce fait qu'il est mutuel. Je me souviens d'un frère qui nous donnait toujours cet exemple des fils de Noé quand ils sont allés couvrir leur père qui s'était dénudé dans la tente, n'est-ce pas? Et il est bien insisté pour dire qu'il marchait à reculons. Et il ajoutait, quand on marche à reculons, eh bien, on voit ses propres faux pas. Et évidemment, ça n'est pas fait pour me donner un esprit tout à fait d'ailleurs déplacé de supériorité. Non, je réalise que l'amour s'exerce à mon égard et la compassion de la même manière que, par la grâce de Dieu, je suis appelé à l'exercer. Et nous avons bien tendance, il faut l'avouer, trop souvent nous dérober devant ce genre parce que c'est difficile. Je me souviens d'un cher frère qui est auprès du Seigneur, qui, en termes très imagés, nous disait, si quelqu'un veut laver les pieds à son frère maintenant, qu'il s'habille bien, qu'il mette des bottes et un bon ciré, parce qu'il disait, l'eau, c'est lui qui va la recevoir. Et il est évident que nous ne sommes pas très, très tentés alors, mais qu'importe, préparons-nous avec le Seigneur, justement, avec un esprit d'humilité, ce qui nous manque tellement, et puis allons si le Seigneur nous appelle, ou en tout cas aussi soyons prêts à recevoir notre frère s'il a quelque chose à nous dire. Quelle grâce qu'un frère vienne me voir et me dise, écoute, frère, il y a un manquement là dans ta vie, quelque chose qui fait de la peine. Et je vous assure que très souvent, enfin, ça m'est bien sûr arrivé qu'un frère m'avertisse ainsi. Et il l'a fait, je veux dire, avec tant de douceur que ce m'était impossible, je dirais, de ne pas le recevoir. Parce qu'il l'a fait de la part du Seigneur. Et au fond, c'est quand même ce qui est placé ici devant nous. C'est pas pour rien qu'on a insisté tant ce matin sur la manière dont le Seigneur a parlé, par exemple, avec Pierre. Quelle patience il a montré, même quand Pierre a posé, on pourrait dire, des questions qui étaient complètement, un peu absurdes ou incongrues. Eh bien non, le Seigneur ne s'est pas lassé et il a finalement accompli dans sa grâce le travail qui s'était proposé. Parce qu'en fait, pourquoi ce travail? Pourquoi cette démarche? Et c'est parce que la communion, on le sent bien avec le Seigneur, est rompue. Elle est rompue avec le Seigneur, mais elle est aussi rompue les uns avec les autres. Et alors, c'est comme une faille dont l'ennemi va se servir sans aucun doute pour élargir, s'il le peut encore, et diviser les frères et sœurs. Alors, nous sentons bien que, je sens comme Raymond que nous sommes très faibles sur ce point. Nous lisons ce beau passage, et puis nous ne sentons pas combien il nous concerne et combien nous aurions besoin de crier, je crois, au Seigneur pour qu'il nous aide à retrouver vraiment cette démarche de l'amour. Et si elle est accomplie avec le sentiment qu'en effet, je suis moi-même l'objet de la grâce de Dieu et que j'ai besoin que mon frère m'avertisse, eh bien, je serai gardé de le faire de la mauvaise manière.
Rappelons-nous que le service que le Seigneur nous confie est celui de laver les pieds. Les pieds en rapport avec la marche, et laver, c'est l'acte de l'eau, c'est-à-dire la parole, qui est Christ lui-même et qui est l'épée de l'Esprit. De sorte que, effectivement, le ministère de la parole dans l'Assemblée est déjà quelque chose qui est entre les mains du Seigneur, de la part de Christ, mais par l'instrument de celui qui présente la parole dans l'Assemblée, est déjà en soi-même un lavage des pieds des frères. Et ce lavage, un frère l'a dit tout à l'heure, il est réciproque. Qui pourrait dire qu'une visite quelconque, quel que soit son caractère, laver les pieds, consoler, apporter quelque chose, soit toujours dans un même sens? Si nous sommes exercés dans un bon état moral, nous recevrons plus que nous ne pouvons jamais apporter. En fait, it's a two-way street, c'est dans les deux sens que la chose se fait.
Ce que nous venons de dire sur ce sujet nous montre bien qu'il y a là un domaine dans lequel, je dois le dire pour moi-même, et je pense que beaucoup le sentent, nous manquons beaucoup. Nous manquons justement dans cette réalisation pratique des liens les uns avec les autres, journaliers ou fréquents, pour parler du Seigneur, parler de la parole, vous parler de ce qui est de nature à apporter du bien l'un à l'autre. On a souligné combien de fois une parole dite sans intention particulière peut avoir un effet sanctifiant, utile pour celui qui l'entend, alors qu'elle a été dite sans qu'il ait le sentiment qu'elle lui soit destinée. Une parole dite en son temps, combien elle est bonne. N'avons-nous pas le souvenir nous-mêmes d'avoir entendu à un moment donné une expression de la parole dans la bouche d'un frère, d'une sœur, qui nous a effectivement atteint et qui a pénétré comme quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Et ce lavage des pieds s'opère par la parole, certainement, souvent, sans qu'il y ait, l'intention de faire positivement cet acte de l'un à l'égard de l'autre. Dieu veuille qu'il en soit effectivement plus souvent ainsi. Cependant, dans ce passage, on l'a souligné déjà, il y a la question d'être envoyé. Comment iront-ils, est-il dit en Romains 10, s'ils ne sont envoyés? Il y a donc une préparation, une responsabilité particulière pour qu'un tel service soit effectué lorsque il revêt ce caractère un peu plus formel, en quelque sorte, que nous ayons la conscience d'être envoyés par le Seigneur pour parler l'un à l'autre, mais avec le sentiment profond, effectivement, que nous avons, que j'ai moi-même à recevoir de mon frère, et peut-être même ce que j'ai à lui apporter, peut-être simplement de ma part une erreur d'appréciation, et peut-être que le contact conduira à ce que ce soit moi qui soit mieux instruit d'une part de ce qu'il en est à son sujet, d'autre part de l'appréciation des circonstances dans lesquelles il se trouve. Il faut avoir cette disposition de cœur à écouter et à se laisser soi-même aussi enseigner. Qu'est-ce qui fait obstacle à ce que ce service soit accompli d'une manière consciente de la part du Seigneur plus fréquemment? N'est-ce pas précisément que nous avons de nous-mêmes une trop haute idée, que nous ne savons pas nous abaisser réellement, d'abord à nos propres yeux, devant le Seigneur, et puis aussi devant les hommes. Parce qu'au fond, c'est l'obstacle aussi bien pour aller vers un autre frère que pour le recevoir. Si justement le recevoir consiste à se justifier et à éventuellement chercher à lui dire ce qui, de son côté, pourrait être redressé, certainement le but sera manqué en grande partie. Donc il y a là sans doute un test, une mise en évidence du fait que nous manquons effectivement sur ce sujet. Et c'est sans doute pas sans motif que le Seigneur plaçait ce chapitre devant nous. Et d'autre part, ce chapitre met l'accent sur la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de nous abaisser nous-mêmes. Un point qui peut peut-être être signalé, c'est dans quel cas est-ce que nous pouvons penser que nous sommes appelés à aller vers un frère, ou vers une sœur, ou quelqu'un qui nous est proche. En tout cas, lorsque il y a effectivement quelque chose qui nous paraît, qu'elle y paraît effectivement avoir manqué, ou qui ne nous concerne pas forcément directement, ou s'engage dans une voie qui paraît n'être pas selon la parole, est-ce que nous aurions le besoin d'en parler à quelqu'un d'autre? S'il en est ainsi, attention. Parlons-en au Seigneur, et c'est par ce moyen que le Seigneur pourra sans doute nous préparer à lui en parler, premièrement à lui. Et si déjà nous avions cette conviction profonde que c'est une chose anormale et nuisible que de parler de l'un à l'autre avant d'être venu vers lui pour s'entretenir ensemble, ne serait-ce que pour que les choses soient éclaircies, eh bien, il y a beaucoup de difficultés qui disparaîtraient. Combien de fois nous avons été réconfortés en parlant avec un frère de nous apercevoir qu'au fond, ce que nous pensions son sujet n'était pas du tout ce que nous pouvions imaginer a priori, pas du tout. Nous lui attribuions des pensées qui n'étaient pas les siennes, et lui-même était tout surpris d'apprendre à connaître réellement ce qu'il y avait dans mon cœur. Et dans un temps où, justement, il est si facile que des différences de pensée, d'appréciation surgissent, les uns les autres, ou au contraire, des pensées particulières. Laissons-nous aussi atteindre par... faisons attention aussi à cela. Si nous parlons avec un frère avec lequel nous avons, disons, facilement les mêmes pensées, nous courons un risque. C'est que nos pensées se cristallisent dans une direction qui est plus ou moins teintée de notre propre volonté, même si nous cherchons la voie de l'écriture sur ce sujet. Si au contraire nous parlons avec un frère au sujet duquel nous pensons que nous n'avons peut-être pas tout à fait les mêmes appréciations, eh bien nous serons conduits à nous expliquer, nous aider l'un l'autre pour nous comprendre l'un l'autre d'abord, et aussi mieux comprendre la portée des enseignements de la parole sur tel ou tel sujet, vu sous telle ou telle circonstance. Et nous serons gardés de nous ancrer dans une pensée qui deviendra une pensée personnelle. Il y a cette réciprocité, l'un l'autre, dans ce travail qui s'accomplit, qui peut être fort utile dans de tels contacts.
Il y a peut-être un aspect que nous n'avons pas souligné et qui est bien là, clairement dans le contexte. D'abord, le Seigneur dit au chapitre 8 et au verset 28, « Je ne fais rien de moi-même. » À la fin du chapitre 12, il exprime de la même manière, « Je n'ai pas parlé de moi-même, le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. »